Donc, que dire, hein, sauf waouh et merci à Sylviane, Jacques, Christine, Monique. Hein, cette liturgie chantée, hein, c'est une tradition dans les églises de chanter les liturgies. Et pour moi, de voir les paroles et la musique ce matin, il y avait quelque chose d'exceptionnel. Et on trouvait Jésus dans ces paroles. Et vraiment, hein, c'est pas juste chanter, l'ambiance, c'est vraiment rencontrer Jésus. Et je pense que nous avons déjà rencontré Jésus dans cette liturgie chantée. Et moi, je vais pas chanter, j'aimerais bien chanter mon message, mais je vais le prêcher. Et c'est encore un moment pour rencontrer Jésus ensemble. Et je suis tellement content d'être de nouveau à Wavrin. Ça fait un moment que je ne suis pas ici. Mais vous m'avez aussi la semaine prochaine, hein, donc attention. Hein. Et donc cette semaine, j'avais à cœur le discours de Martin Luther King. Hein, c'est quand il était à Washington devant la statue de Lincoln. Et voilà, il y avait la foule immense. Et c'était un temps vraiment tendu dans l'histoire des États-Unis. Il y avait beaucoup de divisions. Et il a dit juste cette phrase tellement connue, tellement célèbre. Qu'est-ce qu'il a dit, hein, vous connaissez? Oui, j'ai fait un rêve. I have a dream. I have a dream. J'ai fait un rêve. Et je trouve ça merveilleux. J'ai fait un rêve. Et quelquefois, quand je suis dans les trains, hein, si j'ai un inconnu à côté de moi et on commence à parler, j'aime bien poser une question aux gens. Hein, c'est une question très, très intime. Hein, une question très intime. Peut-être que je peux vous poser cette question ce matin. Qu'est-ce que c'est votre rêve? Qu'est-ce que c'est votre rêve? Et quand Martin Luther King, j'ai un rêve, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est votre rêve? Et souvent, je le fais moi maintenant, mais il y avait un moment, je faisais ça beaucoup, et je notais des réponses des gens. Et souvent, vite fait, les gens, ils disent, oh, mais je rêve de gagner de l'auto. Je veux beaucoup d'argent. Hein. Ça, c'était un rêve. Bon, c'est vrai, quelquefois, les gens, ils rêvent d'être riches. Et le rêve matériel, je dirais, le rêve matériel. Et après, selon d'autres, voilà, je veux l'amour. Hein. C'est déjà, ça monte un peu, mais ça dépend de leur définition d'amour et tout le reste. Mais quelquefois, je dis, mais est-ce que le rêve de Martin Luther King, c'était juste un rêve matériel, un rêve pour lui-même? Non, c'était un rêve du royaume. Ça veut dire que c'était un rêve que le roi Jésus lui donnait. C'était un rêve de réconciliation. Parce qu'il disait plus tard, j'ai un rêve qu'un jour, que les gens ne vont pas être jugés sur la couleur de leur peau, mais ils vont être jugés sur la valeur de leur caractère. Hein, c'est beau ça. Hein, que les gens vont pas être. They will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Hein, je le dis en anglais parce qu'il y a deux C. Content of their character. On peut dire le contenu de notre caractère, mais la valeur, ça veut dire qu'on juge les gens pas par l'extérieur, mais par quelque chose d'intérieur. Et Martin Luther King, en tant que pasteur baptiste, sa vocation, c'était d'aider les gens à découvrir le Christ en eux. Christ, ça veut dire onction, huile, de trouver cette beauté intérieure de Christ en eux, Jésus en eux, et d'avoir le caractère de Christ, ce caractère qui pardonne, un caractère de réconciliation, caractère de paix. Et c'est ça, parce que les gens ils disent, ah, moi je suis chrétien, je suis musulman, je suis juif, je suis d'accord, mais on a marqué, on a coché, mais ça veut dire quoi de connaître Dieu? Ça veut dire quoi de vraiment connaître Dieu? Ça veut dire d'avoir le caractère de Jésus marqué dans notre âme, le caractère qui se sacrifie pour l'autre. Et c'est ça l'amour. C'est pas l'amour à l'eau de rose, c'est pas un amour égoïste. Moi, je veux recevoir de l'autre, c'est ce que je peux donner à l'autre. C'est un caractère de paix. Et donc, je pense qu'on a tous besoin d'avoir ces rêves du royaume. Bon, je n'interdis pas le rêve de gagner le loto ou de trouver son prince qui va venir, le prince charmant ou la princesse charmante. Mais qu'est-ce que Dieu a mis en moi pour aider l'humanité, pour aider ma famille, pour aider mon voisin? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que c'est mon rêve de cette semaine? Et quelquefois, on n'a pas besoin forcément de tout définir, mais juste de savoir qu'il y a quelque chose en nous qui peut être en contribution pour l'autre. Et Jésus a dit que l'Église, les chrétiens sont le sel et la lumière du monde. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui agit, on est actif pour aider les autres. Et donc, le rêve du royaume, bien sûr, c'est un rêve d'amour, un rêve de paix, un rêve de réconciliation, un rêve de sainteté. Ah, sainteté, ça veut dire d'être pleinement habité par la présence de Christ. C'est pas juste d'être séparé, supérieur, religieux. Non, ça veut dire que tu es habité par un désir d'améliorer ce monde, d'améliorer ta propre vie, de dire, voilà, Seigneur, je ne veux pas me vendre bon marché aux choses viles, aux choses qui me détruisent, aux choses qui mènent à la mort. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Passer à côté de notre destinée, passer à côté de notre but. Dieu n'a pas créé Adam pour pécher. Il a été séduit par Satan. Adam a été créé avec Ève pour la vie éternelle, pour le bonheur éternel. Et tout d'un coup, l'homme, il a mal choisi. Et je dirais, chaque semaine, on est dans notre propre jardin d'Éden avec les choix où on peut obéir ou désobéir. Et pas juste des individus, mais même les nations. On peut faire des mauvais choix. Et donc, que faire dans tout ça? Que faire dans tout ça? Moi, je vous encourage à avoir un rêve du royaume, à cultiver le rêve du royaume. Et comment est-ce que c'est juste un rêve quand je dors? C'est une sorte d'intuition pour qui je suis vraiment. Une intuition pour qui je suis vraiment. Et une sorte de... que tu sens que tu es aspiré par quelqu'un pour réaliser cette intuition en toi. Il y a une sorte de contact, quelqu'un qui sait gérer cette intuition d'être qui tu dois être, et il t'encourage. Et quand tu es faible, quand tu passes à côté, qui t'aide à remettre sur le chemin. Et donc, je vous encourage à faire un rêve du royaume. Allez, on va regarder en Actes 2:17. Hein, c'est la première prédication de l'apôtre Pierre, premier pape. Première prédication. Et donc, on est là. Qu'est-ce qu'il va dire? Première prédication du monde dans le Nouveau Testament, rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va dire? Le premier mot prononcé avec un gars rempli du Saint-Esprit. Le début, la première homélie de l'Église. Incroyable, hein? Première homélie de l'Église. Il n'y avait pas des... Ce n'était pas enregistré à l'époque, mais quelqu'un a dû le marquer. Et qu'est-ce que c'est... Bon, c'est une petite blague, mais c'est vrai, hein? C'est un peu ce que je vais dire. La première chose qu'il a dit, il a dit... Première parole, hein? Il se lève, il dit, écoutez, et... Acte 2, verset 5, 15, pardon, verset 15. Ces gens ne sont pas ivres. C'est la première parole d'un pape. C'est que ces gens ne sont pas ivres. C'est drôle, hein, que de prêcher ça, ces gens ne sont pas ivres. Donc, parce que les gens, ils étaient tellement bouillonnantes de leurs rêves. Les gens qui étaient, ils venaient d'être remplis du Saint-Esprit. Et ils étaient comme des fous. Ils étaient habités par une sorte d'extase, je dirais. Et quand les gens sont un peu ivres, bon, je ne sais pas, est-ce que vous n'avez jamais été ivres? Vous avez fait quoi? Comment vous avez... Tu sais, mais on est comment quand on est? Quelquefois, il y a les gens qui dorment, mais il y a d'autres qui partent, qui sont très démonstratifs. Et donc, Pierre a dit, non, ces gens ne sont pas sous. Ces gens ne sont pas sous. Ils n'ont pas pris la cuite de samedi soir. Là, c'est... Non. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et après, il cite Joël. Ce qui est magnifique, il cite une prophétie de l'Ancien Testament. Et quelquefois, j'aimerais bien prêcher. On n'est pas ivre dimanche matin. On n'est pas ivre. Je ne sais pas si les prêtres seraient tentés de dire ça dimanche matin. La messe est un peu froide quelquefois, ou même nos réunions. Et il n'y a pas de danger que les gens ont l'impression d'être ivres. Moi qui sens peut-être trop endormi quelquefois, c'est là la plus proche qu'on arrive de l'ivresse. Mais dans cette extase, bon, il y a les... Et donc je pense que ce qui crée cette ouverture, c'est le Saint-Esprit. Et donc Pierre, il interprète ce qui se passe en citant l'Ancien Testament. Et en verset 17, citant Joël, chapitre 3, hein, c'est un prophète de l'Ancien Testament, mais il cite ces paroles de Joël, et il dit... Verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, dans les derniers jours, dit Dieu. » Et donc déjà, il y a 2000 ans, c'était les derniers jours. C'est, il y a beaucoup de gens qui disent, oh, « On est dans les derniers jours, on a eu le Covid, on a eu les guerres en Ukraine, maintenant Israël, c'est le grand panneau, Jésus est de retour demain. » Et sur Internet, tu lis n'importe, bon, beaucoup de choses, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais beaucoup de choses. Parce que les gens, c'est le moment d'en parler et on va se préparer. Qu'est-ce que vous allez faire si Jésus revient demain? Il faut démissionner, non? Bon, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va vraiment faire? Si on est vraiment convaincu, voilà, c'est la fin du monde. Moi, je dirais, il faut continuer de rêver. Il faut continuer de rêver. Et c'est ça mon message ce matin pour les derniers jours. Parce que c'était déjà les derniers jours, mais peut-être... On est encore dans les derniers jours, peut-être, probablement, qui sait. Dans les derniers jours, dit Dieu. Voilà. Et souvent dans les derniers jours, si vous allez sur Internet, vous allez voir une litanie de malheurs. Et c'est juste parce qu'ils vont citer Matthieu 24, ils vont citer Luc et toutes ces prophéties. Apocalypse, voilà, là, on va parler de l'enlèvement, ça va être très cérébral, très anxiogène. Mais voilà, dans les derniers jours, j'ai une autre parole. Dans les derniers jours, dit Dieu, écoutez bien, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Positif, ça. On va trouver un peu d'ivresse. Je vais répandre mon esprit sur toute chair. Oh Seigneur, répand ton esprit sur ma chair britannique. Un peu française aussi. Et Seigneur, répands ton esprit sur moi, ma personnalité, mais aussi sur toute chair. Et ce qui est magnifique pour un temps qui était vraiment, à l'époque, ils excluaient les femmes. Les femmes n'avaient pas leur place. Mais dans cette prophétie, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Ah, alléluia. La chair féminine. Touché par le Saint-Esprit, rempli par le Saint-Esprit. Et je sais qu'il y a un grand débat. Est-ce que les femmes ont un ministère? Est-ce qu'une femme peut être prêtre? Est-ce qu'une femme peut exercer un ministère? On a parlé depuis longtemps. Il y a les gens qui sont pour, il y a les gens qui sont contre. Mais pour moi, est-ce que le Saint-Esprit, quand il remplit une femme, il dit mince, j'ai fait le mauvais choix. Ah, je suis dans une femme. Ah. Ou est-ce qu'il dit, oh mince, j'aurais préféré être dans la peau américaine que dans la peau africaine. Bon, non, bien sûr, non. Et c'est ça la beauté des derniers temps. C'est que ça balaye nos préjugés. Ça balaye nos préjugés. Le Saint-Esprit balaye nos préjugés. Parce que Dieu dit, et ça c'est une prophétie qui date des milliers d'années. C'est vraiment de Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et pour moi, c'est une prière. Hein, j'ai une prière, même c'est une petite rime, une prière pour toute chair. Hein, c'est vraiment une prière que Dieu veut qu'on prie, je pense, une prière pour toute chair. C'est que Seigneur, répand dans le Saint-Esprit, sur la chair juive, sur la chair arabe, sur la chair africaine, sur la chair européenne, sur toutes les chairs.
Amen.
Amen. Qu'on ne soit pas divisé, mais qu'il y ait une unité dans l'onction. Combien c'est beau quand les frères et sœurs vivent ensemble dans l'unité. Et ça, il ne dit pas « je répandrai mon esprit dans l'Église », il dit « sur toute chair ». J'ai dit, Seigneur, ça n'a pas arrivé que même les gens, quand ils ont lui, n'est pas très, très ouvert à la spiritualité, au christianisme, ou quoi, que tout d'un coup, comme le jour de Pentecôte, Jésus, il a ouvert une voie quand il est mort sur la croix. Il a ouvert la voie pour que le Saint-Esprit puisse venir toucher l'humanité. Et donc, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et après, c'est merveilleux parce que vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Prophétiseront. Ils auront une expression de merveille. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vos fils et vos filles prophétiseront. Et donc, tous prophètes par le Saint-Esprit. Et donc, peut-être que je fais une petite prophétie ce matin avec ma bouche là. Je suis encouragé, je n'ai pas bu avant de venir. Mais j'espère qu'il y a une petite onction du Saint-Esprit quand je parle. Et pour chacun de nous, quand nous parlons, est-ce que nous répétons juste quelquefois des choses qu'on a entendues ailleurs, ou est-ce qu'on va essayer de parler de notre cœur, de ce que Dieu nous dit? Même quand je parle à ma femme, quand je parle à mes enfants, quand je parle dans la rue, d'avoir une parole un peu prophétique, une parole un peu ointe. Et on est tous prophètes. Donc là encore, je vais vous dire comment prophétiser. C'est quelquefois quand l'autre jour j'étais en train de bricoler chez moi, bon, parce que je ne suis pas un bon bricoleur, et donc je tape mon doigt avec le marteau, et tout d'un coup, de mon agonie, de mon cœur, boum, il y a un mot qui sort. Là, je dis, mais Robert, tu n'as pas progressé beaucoup là. J'ai un mot qui sort. Et après, j'ai dit, oh, mais il dit dans la Bible, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il dit, ah, c'est vrai. Et j'ai dit, oh, c'est un peu dommage que cette parole était en moi. Là. J'aurais, alléluia, oh, voilà, merci Seigneur pour cette participation à ta douleur. Et donc, on ne réussit pas toujours. Mais après, j'ai pensé, mais Dieu, il a ce principe. Quand il... Au début de la création, il a dû avoir la lumière dans le cœur de Dieu. Et donc Dieu dit lumière et la lumière soit. Et après, il a dû avoir montagne, soleil, lune, étoile. Il parle, étoile. Et ça sort de lui et ça devient quelque chose. Et après, il dit agneau d'amour. Et l'agneau de Dieu qui était depuis l'éternité dans son cœur est sorti. Et Jésus-Christ est devenu cette parole incarnée, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc Dieu, il utilise, et le jour de Pentecôte, les petits cœurs humains, ils étaient remplis du cœur de Dieu, la grandeur du cœur de Dieu pour l'humanité. Et à ce moment-là, ils sont allés dans la rue comme des ivres, blablabla. Ils parlaient dans toutes les langues, ils parlaient arabe, ils parlaient grec, ils parlaient la langue des Élamites, tout, ils parlaient toutes ces langues. Et les gens, ils étaient étonnés, et qu'est-ce qu'ils ont dit en verset 11? Il dit, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Waouh, des merveilles de Dieu, des merveilles de Dieu. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, mets les merveilles de Dieu dans mon cœur. Que j'ai quelque chose de merveilleux en moi. C'est là où le rêve commence. Qu'on a déjà reçu quelque chose de merveilleux de Dieu en nous. Martin Luther King, il avait reçu quelque chose de merveilleux par rapport à l'humanité, par rapport à la réconciliation. Et c'était un homme qui, quand il parlait, les gens, ils entendaient les merveilles de Dieu. Ils n'entendaient pas les préjugés ou n'importe quoi, mais ils entendaient les merveilles de Dieu. Et j'ai dit, mais Seigneur, aide-moi, aide l'Église à être un groupe de personnes qui véhiculent les merveilles de Dieu. Et qu'est-ce que c'est les merveilles de Dieu? Les merveilles de Dieu, c'est que Dieu, le grand Dieu qui a créé les planètes, il est devenu un bébé. Il est devenu une cellule dans le sein de la Vierge Marie. Il est né. Il a grandi. Il est un charpentier. Il a pris un métier. Et après, il a aimé les gens. Il a servi. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et quelle merveille! Un Dieu qui est si grand, qui devient si petit. Première merveille. Après, merveille! Ce Dieu tout-puissant, innocent, sans péché, il prend ma place sur la croix. Il prend ma punition sur la croix. Et il meurt pour moi. Un Dieu qui meurt, mais... Un Dieu qui donne sa vie pour nous, qui verse son sang. Un Dieu qui est devenu un homme, un Dieu qui est devenu pas juste un tyran ou un roi qui domine, mais un roi serviteur, comme nous avons chanté. Oh mes dieux réunis, incroyable, mais qui meurt sur une croix. Mais quelle merveille! C'est merveilleux d'avoir cette réalité en nous. Mais encore, merveilleux de savoir que 3 jours après sa mort, il y a un tombeau vide. Jésus-Christ est ressuscité. Il a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. » Crois-tu cela? Mais c'est merveilleux. Moi, j'ai cette merveille de la résurrection dans mon cœur. C'est vrai, je le sens. J'ai envie d'exploser. C'est effervescent d'avoir cette réalité de résurrection. J'y crois vraiment. Jésus-Christ est ressuscité. Quelle merveille! Et donc, toute cette horreur de la mort et de la souffrance, c'est vrai que c'est très lourd actuellement. Mais au-delà de ça, il y a l'espérance de la résurrection. La mort et la souffrance n'ont pas le dernier mot sur cette terre. Donc, il faut accueillir ça avec notre deuil et tout ça, mais je sais que ce n'est pas le dernier mot. L'autre jour, j'étais à Tumré, il y avait les funérailles d'un ami, cher ami, jeune homme de 33 ans qui a attrapé le cancer du poumon. 3 années de souffrance. J'ai vu son corps, hein, qu'on peut aller voir la famille. Quelle dignité, cette famille. Et le prêtre, il a donné un message merveilleux aussi pour nous réconcilier. Mais quand même, c'est lourd. On ne peut pas juste dire, oh, je ne balaye pas. Il ne faut pas avoir l'impression que je balaye la souffrance du monde avec un rose. C'est très réel. Ces parents qui doivent vivre avec une absence. 33 ans. Charles Vianney, là. L'âge de Christ. Il est mort. Et il a chanté, ils ont joué un chant, bon, laïque, hein, c'est Maxime Le Forestier, je quitte ce monde heureux. Hein, c'était vrai. Le gars, il savait, il était catholique, hein, mais il priait, il avait la foi. Il n'était pas très pratiquant, mais il avait la foi. Et il quittait ce monde heureux. Et d'un côté, je dirais, on peut quitter ce monde heureux parce qu'on a la foi à la résurrection. On a la foi à la résurrection et à la vie. Quelle merveille! Et après Jésus-Christ, il est allé s'asseoir, reprendre sa place dans la glorieuse Trinité. Reprendre sa place de roi et qui règne sur toutes choses. Quelle merveille! Et après, la merveille de l'Église qui est née. Nous, ce matin, petit troupeau, hein, de tout qui on est. L'épouse de Christ, dans toute sa beauté. Quelle merveille! Moi, j'aime l'Église. Et j'aime l'Église avec un grand E. Église protestante, Église catholique, Église orthodoxe. C'est tous ceux qui ont un rêve, qui ont une aspiration, qui ont une intuition de vivre comme Jésus. Même si quelquefois Jésus est un peu anonyme pour certaines personnes. Il y a une intuition de dire j'ai un appel de vivre mieux que ce que je vis actuellement. Et donc, voilà, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous aurez des merveilles de Dieu dans vos cœurs. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Et donc, si on est dans les derniers jours, ce qu'on est dans les derniers jours depuis 2000 ans, mais ça veut dire que Dieu nous donne des rêves et des visions. Dieu nous donne. Il dit que c'est des vieillards qui auront des rêves et des jeunes qui auront des visions. Mais bon, Qu'est-ce que c'est la différence entre une vision et un rêve? Mais bon, je comprends les choses. Peut-être une vision, c'est toujours possible. Peut-être un rêve, ça doit attendre. Parce qu'on rêve. Je rêve de courir le marathon en moins de 3 heures. Je vais y rêver. Mais je rêve. Et aussi, je m'appelle Robert. Robert, rêve. Robert, rêve. Robert, rive, rêve, rêve. Ah, Seigneur, merci. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, oui, dit Joël, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Alléluia. Alors moi, je dirais, encourageons nos rêves et encourageons les rêves de ceux qui nous entourent. Ça, c'est former les disciples. C'est ce qu'on dit, il faut faire des disciples. Discipline, toc, 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 quoi cette doctrine, quoi comme ça, assieds-toi comme ça, marche comme ça. Non, 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 non. Moi, faire des disciples, c'est encourager quelqu'un dans leur rêve de royaume. Être un mentor de ça, d'aider quelqu'un à trouver leur rêve intérieur, leur vision intérieure. Allez, petite question encore. Bon, je l'ai déjà donné, mais je laisse la Bible vous le donner aussi. Genèse 40, c'est l'histoire de Joseph. C'était l'homme qui avait beaucoup de rêves, Joseph. Joseph, c'était l'homme qui avait des rêves. Il était aimé par son papa, il avait un manteau bigarré. Il avait 17 ans quand il a commencé à rêver. Et il était un peu gonflé de son rêve à 17 ans. « Oh, moi je vais régner !» Parce qu'il se mettait lui-même au centre de son rêve. Et après 13 années d'épreuves, il a appris « Ah, peut-être c'est Dieu qui doit être le centre de ma vie et pas moi. » Et il a appris à ne pas être lui-même le centre de son rêve, mais d'inviter d'autres à participer à son rêve. Tu vois? Et c'est ce que Jésus fait. Il nous invite à participer à son rêve du royaume. Que ton règne vienne, Seigneur. Hein, la prière qu'il nous a enseignée. Que ton règne vienne, Seigneur. Le règne de Jésus. Ce rêve de son royaume, de son règne dans nos cœurs. Et il est en prison à un moment donné. Et c'est là où il a beaucoup appris quand il était privé de tout. Et il y avait deux petits gars qui faisaient leurs propres petits rêves. Et au lieu de balayer leurs petits rêves, moi je suis destiné à être le premier ministre d'Égypte et autres. Non, il écoute ces petits qui ont leurs petits rêves. Et ça c'est beau. Il y a quelque chose là. Si tu veux réaliser ton grand rêve, écoute les petits qui ont aussi leur rêve. Et interprète leur rêve. Donne de l'espace pour leur rêve. Et comme ça, tu vas réaliser ton propre rêve. C'est pas unique, c'est pas juste moi et mon rêve. Non, c'est quand l'Église écoute les uns des autres, quand on stimule le Saint-Esprit dans l'autre, que toi tu vas accomplir au travers de cette personne ton rêve aussi. Et donc voilà, Genèse 40, verset 8. Hein, il y avait deux petites personnes. Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve. Il n'y a personne pour l'expliquer. » Et Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Amen. C'est Dieu qui peut expliquer, interpréter ce désir, cette intuition en vous pour vivre mieux. Et racontez-moi donc votre rêve. Racontez-moi donc votre rêve. Et je vous encourage à trouver quelqu'un cette semaine et de raconter votre rêve à cette personne. Hein, ça peut être très intime, mais de dire voilà, ou même si vous n'avez pas des paroles, de dire moi je sais qu'il y a quelque chose en moi, est-ce que vous pouvez m'aider à interpréter ce qui est en moi? Et ce n'est jamais trop tard. Même moi je suis au seuil, j'espère, d'un autre rêve. Je dis voilà Seigneur, il y a des cycles quelquefois, mais ce n'est jamais fini. Un rêve du royaume, Seigneur, comment est-ce que tu peux m'utiliser? Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et donc, racontez-moi votre rêve. Parce que quand le rêve est libéré, ça vous motive. Et ça peut vraiment changer beaucoup de circonstances autour de vous quand vous vivez par votre rêve. Bien sûr, le rêve du royaume. Juste pour terminer, j'avais une petite parole pour notre église de Wavrin, tu vois, c'est dur quand même. Il ne faut pas juste encourager, il faut de temps en temps dire une parole que j'ai reçue pour Wavrin. Et j'ai prié toute cette semaine pour cette parole. Et c'est quand Jésus parle du royaume, il a toutes les paraboles du royaume. Et c'est en Matthieu 13, et c'est à la fin de tout ça, en Matthieu 13, 52, il dit, et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça c'est Wavrin. Tu vois, c'est comme on dit, Jésus est le maître de maison. Et je dirais, il y a des anciens rêves qui sont comme des trésors anciens dans cette église. Je dirais le rêve de Jean-Luc, Jacques Christé, d'autres fondateurs. Hein, je ne vais pas nommer, il ne faut pas. Je peux nommer tout le monde, hein, on a tous contribué. Tous ceux qui ont plus de, je sais pas, 60 ans, 55 ans, c'est qui. Et on a eu des rêves ici. Et ces rêves étaient là. Et je pense que le maître, il tire de son trésor ses rêves anciens toujours. Ses rêves sont jamais finis. Tout rêve du royaume est valable. Et donc merci Seigneur pour tes rêves anciens. Et même dans vos familles, votre grand-père, Il a eu des rêves, il a fait des trucs et le rêve s'est incarné par la sueur, par le travail souvent. Et il a créé un petit royaume, il ne faut pas juste balayer le passé comme ça, non. Tout. Non, 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 il faut garder ce qui est bon dans nos héritages, dans nos traditions familiales, même dans nos églises. Oh, il faut toujours réinventer tout. Non, 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 parce qu'on est déraciné. Et donc merci pour l'ancien trésor, les rêves anciens. Et je suis content parce que Wavrin est un bon capital de rêves anciens. Mais, si tu n'as que des rêves anciens, c'est pas assez. Le maître de maison, il dit, il cherche aussi des trésors, des choses nouvelles, un trésor nouveau. Et je pense que Wavrin est aussi à ce moment où il y a des trésors nouveaux. Je vois ça. Des trésors nouveaux dans, on peut les nommer, en Matthieu, Benjamin, Alison, Ève, j'oublie, Amandine, petit trésor qui connaissait aussi. Tu fais le lien là, parce que tu étais bien dans l'ancien et aussi dans le nouveau. Samuel et d'autres. Si j'ai oublié, hein, pardonne-moi. Mais je pense que Dieu me dit que ces rêves anciens et que ces rêves nouveaux, ces trésors anciens et que ces trésors nouveaux construisent l'avenir. Construisent l'avenir. Et que Dieu donne une onction nouvelle sur nos rêves. Que nous rachetons nos rêves pour le Seigneur dans ces derniers jours. Amen. Racontez-moi vos rêves. Alléluia. Je vais prier. Hein. Je vais prier. Je vous encourage, même si bon, le meilleur c'est de trouver un petit coin et de dire qu'est-ce que c'est mon rêve. Et il faut imaginer que Joseph est devant vous cette semaine, il dit racontez-moi votre rêve. Et vous racontez cette intuition. Et quelquefois, vous pouvez dire, je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Et si vous êtes, je ne sais pas, il y a quelque chose, vous allez trouver un bon ami ou quelqu'un, et vous dites, mais aide-moi à trouver ce qui est en moi. Bon, ça aide si c'est basé sur le royaume, comme je dis, sur Jésus, sur le Saint-Esprit. Et si vous trouvez quelqu'un, c'est bien. Et après, essayez d'écrire ça. Écrire. Parce que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et que Dieu peut donner une plus grande onction sur votre vie. Et vous allez prophétiser les merveilles de Dieu. Et vous aurez ces rêves du royaume. Imaginons que peut-être Jésus est à la porte. Mais imaginons, il veut arriver sur nos rêves. D'un côté, le rêve de son Église, il va arriver. C'est Jacob, il avait une échelle qui allait jusqu'au ciel. Et je pense Martin Luther King, il avait commencé à construire une petite échelle vers le ciel pour que le ciel puisse toucher la terre. Et nos rêves construisent une échelle pour que le règne de Dieu puisse venir pleinement sur la terre. Et donc, Seigneur, aide-moi à ne pas laisser mourir mon rêve. Seigneur, ce rêve du royaume. Seigneur, répands sur moi ton Saint-Esprit, sur ma chair, Seigneur. Je crois en toi et je désire être renouvelé, touché par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, que je puisse avoir des oreilles renouvelées pour écouter mon intuition intérieure, pour écouter le rêve que le Saint-Esprit me donne, ce rêve du royaume, ce rêve de Jésus le roi en moi. Et Seigneur, merci. Je te demande d'encourager chacun ici, Seigneur. Et utilise-moi, Seigneur, comme Joseph aussi cette semaine, pour encourager les rêves des autres. Fais de moi quelqu'un qui peut encourager les rêves autour de moi, encourager les rêves de mes enfants, de mes petits-enfants. Seigneur, encourager les rêves de mon épouse, de mon époux, Seigneur. Et encourager les rêves de mes amis, de mes partenaires, de mes compagnes, Seigneur. Je prie vraiment que tu m'aides, parce que tu répondras ton esprit sur toute chair. Surprends-moi, parce que tu vas me diriger à trouver le rêve où je pensais ne pas le trouver. Et donc, merci, Seigneur. Et je prie pour Wavrin, notre Église. Et je te remercie pour des rêves anciens, ces trésors anciens. Merci, Seigneur. Je bénis Jean-Luc et Annette parce qu'ils ne sont pas là, mais merci parce qu'ils ont beaucoup rêvé. Et Seigneur, merci aussi maintenant pour les trésors nouveaux, Seigneur. Et je bénis toute cette nouvelle équipe-là qui est en train d'émerger, Seigneur. Je te demande de garder leurs rêves. Et je te demande qu'ils puissent interpréter les uns les autres les rêves qui sont dans leur cœur, Seigneur. Et je prie pour tous les petits-enfants qui sont dans les écoles de dimanche, dans les groupes de jeunes. Seigneur, que tu leur donnes à avoir leur rêve aussi et de pouvoir, comme Joseph, dès leur jeune âge, de commencer à faire un rêve et de grandir dans le caractère de Christ. Et donc, Seigneur, une longue prière, mais je remets tout cela entre tes mains et je proclame, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, les supplications, avec les actions de grâce, faites connaître vos rêves à Dieu. Faites connaître vos rêves à Dieu. Et la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen. Sois béni. Soyez bénis.